France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. C'est le rendez-vous habituel des leaders politiques et économiques dans le monde. Le forum de Davos en Suisse ouvre officiellement aujourd'hui. 3000 participants sont attendus, des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG et des représentants de gouvernement. Le président brésilien populiste Jair Bolsonaro prononcera le discours d'inauguration, alors que d'autres dirigeants ne seront pas là pour cause de crise intérieure. L'américain Donald Trump à cause de la paralysie budgétaire américaine. Le français Emmanuel Macron, il a un agenda surchargé selon l'Élysée, ainsi que la britannique Theresa May pour cause de Brexit. Car la première ministre est toujours dans l'impasse dans son pays. Face au Parlement hier, elle n'a pas présenté de plan B à proprement parler, mais elle a seulement promis d'aller renégocier avec Bruxelles et de mieux écouter les députés britanniques. Faute de consensus, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, programmée le 29 mars prochain, pourrait se faire sans accord. Emmanuel Macron et Angela Merkel signent aujourd'hui un traité bilatéral à Aix-la-Chapelle en Allemagne. L'idée est d'accélérer la convergence franco-allemande et de contribuer à l'approfondissement européen. Le texte doit compléter celui qui avait été signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer pour sceller la réconciliation franco-allemande. Et ce texte affirme, je cite, la volonté des deux pays de faire converger leurs économies et leurs modèles sociaux, ainsi que de rapprocher leurs sociétés. 50 millions d'euros, voici l'amende infligée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés à Google. La CNIL estime que le géant américain n'a pas assez été transparent sur ces nouvelles technologies qui traitent les données de ses utilisateurs. Il s'agit de la plus forte amende imposée à ce jour à une entreprise depuis la mise en application du règlement général sur la protection des données en Europe. Et puis la nouvelle est tombée tard hier soir, Marcel Azola est mort, virtuose de l'accordé. Il avait notamment accompagné Jacques Brel sur sa chanson Vesoul. Il avait aussi donné en France un souffle nouveau à l'instrument en emmenant vers le jazz. Marcel Azola avait 91 ans. Nous l'entendrons dans le journal de 6h30.
La plus célèbre des houppettes fête ses 90 ans. Née en 1929 sous le crayon d'Hergé, Tintin et Milou ont ravi des générations de lecteurs.
La momie.
Elle a disparu. Évaporée à Scarcapac. Volatiliser.
France Culture, la Comédie Française, Moulinsart et l'Orchestre National de France vous invitent à suivre et à podcaster trois aventures du célèbre reporter.
Je vais vous couper la tête.
Les cigares du pharaon, le lotus bleu et les sept boules de cristal. Un dossier spécial, les aventures de Tintin.
Et je dirais même plus, un podcast exceptionnel à retrouver sur franceculture.fr.
Monsieur Tintin, quelle joie de vous rencontrer enfin.
Pour bien commencer la journée à 6h03, vous écoutez France Culture. Toufik Hakem vous accompagne pour une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et je le sens, cette journée commence bien puisqu'on va parler de Futuropolis. Ça, c'est une belle histoire et toute une époque, les années 70 et 80. Et pour celles et ceux qui n'ont pas connu ce temps, cet autre âge d'or de la bande dessinée, il faut expliquer que Futuropolis a été une maison d'édition qui a révolutionné le genre, marqué les esprits et déniché pour les faire connaître ici les plus grands dessinateurs du monde. Futuropolis, tout un catalogue. Moebius, Edmond Baudouin, Jacques Tardif, Mure, José Muñoz, Chantal Mantelier, Loustal, Willem, Jost Swart, Anki Bilal et j'en passe. Futuropolis, c'est une folle aventure qui a duré de 1974 à 1988 et le musée de la bande dessinée d'Angoulême organise une grande exposition retraçant les années Futuropolis. Alors l'expo ouvre demain à l'occasion du Festival de la bande dessinée, bien évidemment, 46e édition, et cette expo va durer jusqu'au 19 mai. Et ce matin, nous avons la chance d'avoir les deux historiques qui sont à l'origine de cette palpitante aventure Futuropolis, à savoir Florence Sestac et Étienne Robiel.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Réveil culturel en compagnie de Florence Sestac et Étienne Robial. Ravi de vous retrouver, Florence Sestac.
Bonjour.
Et quel honneur aussi de vous avoir, Étienne Robial.
Alors, bonjour.
L'intitulé de l'exposition au musée de la bande dessinée d'Angoulême qui ouvre normalement demain, ils sont encore en train de terminer, l'intitulé c'est Futuropolis 1972-1999 aux avant-gardes de la bande dessinée. Alors, aux avant-gardes, ça résume bien la ligne éditoriale de la maison d'édition que vous avez fondée, mais ça dit aussi que l'histoire commence plus tôt, en 1970, et se termine avec la fin du siècle. Alors, je sais, Florence Sestac, vous l'avez déjà raconté en BD, et je ne sais combien de fois à la radio, mais on va refaire le cours d'histoire de Futuropolis.
Avec plaisir, oui, oui.
Alors, ça commence comment? Avec Étienne Robial, bien sûr. Alors, oui. Ça commence comment? On est en 1972, il faut imaginer trois jeunes Normands dans le vent de l'après-68 qui arrivent à Paris après avoir terminé leurs études aux Beaux-Arts. Il y a donc vous, Florence Sestac, Étienne Robial et un autre ami, Denis Ozanne, qui quittera l'aventure en cours de route. Tout commence avec la découverte d'une librairie, c'est ça, d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée et située dans le 15e arrondissement de Paris.
Exactement, oui, tenue par un monsieur qui s'appelait Robert Roquemartin, qui est décédé malheureusement maintenant. Et donc il avait lieu ouvert cette première librairie de bande dessinée, et qui avait été d'ailleurs vendeur dans une librairie précédente qui appartenait à Jean Boulet. Du château, voilà. Donc après, lui, il avait ouvert sa librairie, et nous, on a repris cette librairie.
Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, Étienne Robial?
Elle avait, c'était une grande découverte, parce qu'a priori, on n'était pas des grands spécialistes de la bande dessinée. D'ailleurs, je ne suis toujours pas lecteur de bande dessinée. Mais on était chineurs aussi, ça fait partie de l'histoire. On chinait beaucoup, à l'époque, c'était dans les marchés aux puces, à Montreuil, aux Aurores. Et puis on avait...
Chiner de la bande dessinée, on est d'accord.
Pas spécialement. Non, mais la découverte, l'idée de trouver des choses et autres, et ça nous passionnait. Et puis on était déjà, on travaillait à gauche à droite, chez Philippe Aki, chez Barclay, on faisait des illustrations, des dessins, et la routine commençait un peu à nous fatiguer. Et puis l'idée qui trottait dans notre tête d'éditer, de toucher la chose imprimée, on a trouvé que l'idée de la librairie, c'était une opportunité pour se faire un peu de fonds propres, chose que l'on n'avait pas.
Cette librairie, elle ressemblait à quoi, Florence Sestac?
C'était à l'époque, c'était la seule qui existait à Paris autour de la bande dessinée. Donc il y avait de tout. Il y avait des bandes dessinées d'occasion, il y avait des vieux journaux de Mickey, des vieux journaux de Pif le Chien, n'importe quoi. Et donc c'était une espèce de caverne d'Ali Baba de la bande dessinée. Et on faisait beaucoup d'importations aussi. Donc tous les amateurs de bande dessinée se retrouvaient là. C'était le centre d'intérêt de... Voilà.
Un peu de culture générale dans ce cours d'histoire. Pourquoi cette librairie s'appelait Futuropolis?
Alors, le Futuropolis, c'est le nom d'une bande dessinée qui était dessinée par Pelos, qui était une bande dessinée de science-fiction. Dessinée par Pelos, qui paraît dans un journal qui s'appelait...
Junior.
Junior, voilà. Grand format.
Et cette librairie, faite aujourd'hui, c'est 50 ans d'existence.
Oui, voilà. Elle n'existe plus, la librairie.
Non, elle n'existe plus. Alors, vous la reprenez en 1972?
C'est ça. Après Robert Roquemartin.
Et donc, il y a une période où vous êtes juste libraire. L'idée, c'est de faire connaître vos auteurs. À quel moment, Florence Sestac, Étienne Robial, vous décidez de passer à l'édition?
Déjà, dans cette librairie, elle est très orientée dès ces années-là, mais il y a un gros Tintin barré avec marqué « Not made in Belgia ». Hein, on est délibérément anti-franco-belge. La bande dessinée à l'époque, faut le rappeler, est encore sous la loi du 16 juillet 49, la protection des ouvrages pour la jeunesse.
Donc vous arrivez avec vos idées de contre-culture.
Voilà, oui, on est des vieux 68-ards déjà, donc tout ça.
À l'époque, vous étiez jeune 68-ards.
Oui, oui, mais enfin, c'était encore chaud. Et l'idée, c'était de présenter dans les auteurs récents, c'était Fred, c'était le Cabu, Gottlieb, et puis on participe aux aventures de l'Écho des Savanes, et puis très vite après Métal Hurlant à suivre et tout ça. Et l'idée, c'était de montrer et créer ce lieu de rencontre où on découvrait aussi bien les comics X de la côte ouest américaine, c'est le début de l'underground, et aussi bien les comics CS de la côte est des dessinateurs. Alors c'est pas les héros qui nous intéressent, c'est Kaluta, c'est Joe Kubert, c'est Kirby. Superman, tout ça, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est les dessinateurs. Ouais. Et ce lieu, c'est un lieu de rencontre où, tous les dessinateurs ou jeunes dessinateurs ou les jeunes tardis imberbes viennent traîner leur basket le jeudi après-midi.
Bien sûr, oui, oui. Mais c'est un lieu de rencontre. Alors effectivement, tous les gens qui faisaient déjà de la bande dessinée, tout le monde venait à la librairie. Soit pour acheter des bouquins ou soit pour rencontrer d'autres gens.
Quoi. Mais quelle idée folle que de vous lancer dans l'édition, parce que vous auriez pu juste constituer ce pôle de la grande librairie de la bande dessinée.
Ben oui, mais bon, on était Étienne et graphiste, il y avait l'idée de publier quelque chose depuis le départ et tout.
Premier auteur publié,
c'était Calvo.
Calvo, puis très vite, Tardy, bon, qui est le copain de Boisson, et que les nuits qui s'éternisent à refaire le monde, et c'est de présenter, de proposer des choses inattendues et surtout matures. Alors, pas forcément mature, adulte, cul, mais mature pour des grandes personnes. C'est-à-dire, on ne s'intéresse pas aux pulapis, aux gamins. On est en plein dans la période où... Ou sur les bouquins, il y a écrit Blueberry, et en tout petit, il y a marqué texte au singulier J.M.Charlier, dessin, avec un S, parce que là, il y en a beaucoup, J.Giraud. Hein, c'est-à-dire que l'auteur n'existe pas. Et nous, par provocation, on sort la véritable histoire du soldat inconnu de Tardy, avec Tardy, en gros, sur la couverture, et on ne met le titre qu'à l'intérieur.
Et vous êtes synchrone avec les Cahiers du cinéma, parce que vous allez défendre la politique des auteurs, mais cette fois-ci, en bande dessinée. Et depuis, bon, ceux qui ont connu cette époque, ou ceux qui chinent, peuvent avoir quelques précieux exemplaires de vos bandes dessinées, éditées entre 74 et 88, pour aller très vite. On a parlé de Tardy, mais on peut aussi parler de Munoz, de Jos Swart, de Willem, de Loustal, c'est-à-dire il y avait aussi des grands dessinateurs. Alors, comment retracer par une exposition l'aventure de Futuropolis? Eh bien, nous avons au bout du fil Jean-Pierre Mercier, qui est conseiller scientifique à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. D'abord, Jean-Pierre Mercier, rassurez-nous, hein, demain l'exposition sera prête pour accueillir le public.
Absolument, bon. Absolument. J'y mets un point d'honneur en tant qu'ancien client de la librairie en 72. J'ai une dette envers... Étienne Florence, donc on va faire les choses très très bien, on les a faites très très bien déjà.
Alors comment ça se présente cette exposition?
On rentre dans une évocation de la librairie, ensuite on va passer, avec un petit hommage à Calvo, on va passer après dans la partie édition, avec une table lumineuse, et puis sur les murs tout un tas de choses... tout le matériel de l'époque pour corriger les films, pour les gratter, enfin toute la cuisine qui se faisait à la main à l'époque et qu'on fait maintenant sur des écrans.
Que vous avez reconstitué tout seul ou...
C'est une évocation.
C'est une évocation.
La reconstitution est extrêmement difficile à faire aujourd'hui. On a alors Étienne et Florence ont eu la gentillesse de nous refiler des vieux polaroïdes, des feuilles de lettres A7, c'est-à-dire peut-être quelque chose... aux auditeurs les plus aguerris, et puis après on a évoqué aussi la partie diffusion, parce que la particularité de Futuropolis, Étienne parlait de l'esprit 68, c'est
on fait tout nous-mêmes, hein, c'est-à-dire on choisit l'auteur,
complètement autonome.
C'est-à-dire choisir l'auteur, le suivre, sortir le livre, faire la tournée des libraires, faire la promotion, et puis même livrer les bandes dessinées.
Absolument. Alors on a retrouvé le modèle de la mobilette que le coursier, le mythique Foufougne, utilisait pour aller dans Paris. Donc elle sera dans l'exposition, les grands et les petits vont pouvoir monter dessus. Et puis on termine avec une évocation, c'est quand même le plus important puisqu'on parlait de politique des auteurs. On a, il y a je sais plus combien, 300, plus de 300 auteurs qui ont été publiés par Futuropolis. On en a gardé 20. Et donc là, on va montrer les 20 auteurs les plus importants, Tardy, Swart, Willem, Martin Véron, Pascal Rabaté, enfin, Jeanne Puchol, etc., tous ces gens-là. Ce qui est important avec Futuropolis, c'est que Futuropolis a non seulement changé la vision de l'auteur, mais on connaît Étienne en tant que designer graphique, c'est-à-dire que les livres de Futuropolis...
sont très beaux. On peut le dire.
Sont très beaux, mais à l'époque, ils tranchent complètement. C'est-à-dire que les premiers bouquins, on a parlé de Calvo, le premier Calvo, il fait 30 cm sur 40 cm de hauteur, il est souple, et donc dans la bibliothèque d'un amateur de bande dessinée franco-belge, dont parlait Étienne tout à l'heure, ça rentre pas, donc tout le monde râle, personne n'est content, Sauf que quand, au bout de quelques années, ils en ont fait une quinzaine, une vingtaine, ça devient en soi des beaux objets qu'on a envie de garder. Les collections de réédition de la collection Copyright, qui sont les grands classiques de la bande dessinée américaine de la grande époque, puis de la bande dessinée française, avec les Pionniers de l'Espérance et Calvo qu'on retrouve, et Saint-Augan, ça va être dans des albums à l'italienne, cartonnés avec une belle jaquette et tout ça. Et là, c'est pareil. Immédiatement, au début, les gens râlent, et puis très très vite, ils trouvent ça superbe, et puis ils en font des... Ils font une place dans le rayonnage de leur bibliothèque. Donc, c'est des objets en soi qui sont aussi, à l'époque, en rupture avec la pratique de l'édition de bande dessinée telle qu'on la faisait.
Et en guise de catalogue d'exposition de Futuropolis, 72-99 aux avant-gardes de la bande dessinée, eh ben, vous avez eu l'idée géniale de ressortir juste la bande dessinée de Florence Sestac, puisqu'elle a raconté la véritable histoire de Futuropolis.
L'histoire racontée par quelqu'un qui est aux premières loges, avec humour, avec à peu près tous les protagonistes. Alors, j'en profite pour ajouter que c'était la volonté de Florence et d'Étienne, c'est d'inclure le maximum des acteurs de cette histoire. Donc on a interviewé beaucoup d'auteurs, on a interviewé Jean-Christophe Menu, Martin Véron, Jo Swart, Jeanne Puchol, mais aussi les employés de la maison qui ont été représentants, responsables de la distribution, maquettistes, et on a fait des petits montages, des petites pastilles de 1 minute, 2 minutes, de chacun qui égrène des anecdotes, raconte les histoires, revient un peu sur cette aventure. Et ça c'est disséminé un peu partout dans l'expo.
Et l'expo qui dure jusqu'au 19 mai, c'est bien sûr à Angoulême, à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image.
Absolument.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Grieve me so, but your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my lady Dapanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white, your skin has turned to white, my lady Dapanville. Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la.
Je vous imagine en train de danser sur cette chanson emblématique des années 70, sortie en 1970, Cat Stevens, bien sûr, Florence.
On a fait que ça.
Florence Sestac, Étienne Robial.
On dansait, puis on tirait le pétard quand même à cette époque-là.
Mais vous faisiez toutes ces bandes dessinées, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une grande exposition qui retrace cette aventure incroyable de Futuropolis. Alors vous avez fait des bandes dessinées qui ont connu un succès populaire, Florence Sestac, vous avez même reçu le Grand Prix d'Angoulême, je dirais même plus, comme dirait les Dupont la joie. Oui. Vous êtes l'unique femme Grand Prix d'Angoulême.
Jusqu'à maintenant, oui.
Ouais.
C'est quand même scandale, non?
Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez au sein de Futuropolis?
Moi, j'étais plutôt c'est un peu comme une famille, il y a le père, la mère. Moi, j'étais plutôt la mère. un peu consolatrice des auteurs qui venaient nous voir et tout, que Étienne recevait, puis peut-être qu'il n'était pas assez gentil avec eux ou tout ça, et donc moi j'ai recueilli après pour leur dire, mais non, si t'es engueulé, c'est que c'est bien, tout va bien, t'angoisses pas et tout ça. J'ai fait l'attaché de presse, j'ai fait les livraisons, je faisais des films aussi dans le laboratoire pour l'impression, enfin je savais tout faire, quoi.
Alors, vous allez corriger cette légende qui dit que Étienne Robial s'occupait plutôt des artistes classieux, en noir et blanc.
Sombre.
Et il vous refilait tout ce qui était des Mickey, les gros nez, les Popeye, tout ce qui était en couleur, était farfelu.
C'est ça. On se complétait bien. C'était parfait. Voilà. Moi, j'étais plutôt schlingot, moi. Gros nez, schlingot, quoi.
Et vous avez aussi fait découvrir quelques auteurs internationaux.
Des gens comme Svart. Svart, oui, qui fait ses bouquins à Paris, qui les retraduit pour les ressortir en Hollande. Et dans notre mythique collection 3040, il y a Jeff Jones, Wrightson, Von Bode, qui sont des gens que l'on connaît pas du tout.
Vous ne citez jamais Will Eisner, et pourtant, si jamais je l'ai, je sais pas, c'est grâce à vous. Hein.
Oui.
Oui, mais enfin, il y a beaucoup. En revanche, à cette
Crumb
époque-là...
Aussi, d'ailleurs.
À cette époque-là, évidemment, on tourne un peu le dos à la Belgique et on est plutôt orienté aussi vers les Italiens. Ou Pratt, Crépax, Buselli, tous ces Italiens qu'on rencontrait à l'avant Angoulême, qui était le festival de Look. Donc c'était les Italiens, c'était les Américains. Délibérément, on tournait le dos à la Belgerie. C'était pour faire découvrir, et c'est vrai qu'on ne le connaissait pas. Par exemple, Pratt n'était pas édité en France, hein, personne ne connaissait.
Toujours... Sauf les lecteurs de PIF. Hein.
Voilà, et on allait à la braderie de Lille, dans les années 70, tout au début, où on ramenait des camionnettes entières de PIF, et au cutter, le lundi après la braderie de Lille, on découpait toutes les pages d'un truc qui s'appelait la balade de la mer salée, qu'on foutait dans un sachet plastique et qu'on vendait 10 balles. Et on faisait rencontrer, découvrir ce mec qu'on connaissait à peine, qui était disponible dans PIF, c'est-à-dire encore une fois pour les gamins.
Tous les livres de la Futuropolis ont marqué leur époque, tous les auteurs en parlent. L'histoire va se poursuivre dans les années 90, puisque avant de fermer Futuropolis, vous avez eu quand même le temps d'éditer quelques jeunes, hein, je pense à Rabaté, je pense surtout à Menu qui est tout de suite après est allé et créé l'association à la manière de Futuropolis, et à chaque fois que l'occasion s'est présentée, il a rendu hommage à Futuropolis, mais quand on lit la véritable histoire de Futuropolis par une des personnes clés de cette maison d'édition, on se rend compte que ça n'a jamais été réellement rentable.
Ah non, ça c'est sûr qu'on n'a jamais gagné beaucoup d'argent, mais on a pris beaucoup de plaisir, voilà. Mais on était doués pour faire les bouquins, mais en gestion on n'était pas doués, je crois. Donc ça pose un problème par la suite.
C'était pas le but non plus de l'opération de gagner de l'argent. C'est pour ça que cet esprit de groupe, de famille, on a quand même eu une époque où nous étions 29, hein, ce qui fait quand même beaucoup de bouche à nourrir le 31 du mois, comme dans un nid où tout le monde fait cuit-cuit. Il a fallu aborder, gérer tout ça. Bon, gérer ça, certainement, ça très mal, mais en attendant, on publiait, et le but, c'était d'aller le plus loin possible et faire des choses les plus courageuses pour surprendre, pour étonner. Je pense à Baudouin qui a fait un grand chemin avec nous. Il a fait tous ses albums avec nous et au début, on en vendait 100 ou 200.
Et vous allez être rattrapé par le réel, c'est-à-dire après les années des utopies d'après 68. On arrive aux années 80, les socialistes passent au pouvoir, mais c'est surtout les années fric qui se mettent en place. Comment ça a commencé? Ça a commencé par un succès chez Futuropolis, des adaptations littéraires, ce qui a permis à Gallimard de s'intéresser de très près à ce que vous faites. Et c'est là où il y a eu ce grand succès éditorial, c'est-à-dire Céline, adaptée en bande dessinée par Tardy, Le Voyage au bout de la nuit. Hein. Il avait déjà eu un grand succès avec La véritable histoire du soldat inconnu, mais là, il réalise ce livre. Gallimard s'intéresse à vous et petit à petit va vous racheter. Quel est le mot qu'il faut utiliser d'ailleurs, Florence?
J'appelle ça pudiquement un rapprochement.
Franchement.
Voilà.
Bon. mais vous-même, Étienne Robial, vous avez joué le jeu. Hein, vous êtes allé à Canal+, vous avez...
Ah bah, j'étais déjà avec Canal+, c'est 84, avant ça, oui. Avec Lescure et on parlait de la gauche en 80, avec des groupes et Lescure de greffe, on fait Les Enfants du Rock.
Ouais.
Encore une fois, l'argent qu'on gagne là, ça sert à faire des bouquins à Futuropolis. C'est pour ça que la finalité économique est assez floue et vague. C'est une sorte de boulimie, de création, de partager, de faire découvrir les choses qui font que...
Mais comment se termine cette histoire? Donc on a dit le grand succès de Tardy, Gallimard qui vous dit, mais qui vous propose cette idée, nous avons un vrai fonds de grands auteurs, mais venez les adapter. Non, c'était pas comme ça?
On va en parler. Non, c'est une idée de Tardy. Tardy veut absolument, il veut s'accaparer le texte de Céline, au même titre qu'un Hitchcock va s'accaparer le titre Vertigo de Boileau-Narcejac, c'est-à-dire qu'il veut s'approprier le bouquin et le raconter à sa manière, avec ce qu'il voit. Alors évidemment, la base, le support est énorme, et c'est là qu'il y a les premières approches... avec Gallimard, avec Antoine, tout simplement, qui dit que
Céline, ne pas proposer...
Céline n'est pas à vendre. Bah oui. Et puis même, on approche Lucette Destouches, ouais. À Meudon, qui est toujours de ce monde, et qui voit pas le rapport entre Louis Ferdinand et Astérix. Et puis voilà, puis insistant lourdement au bout d'un an, au bout de deux ans. Angoulême me rend un hommage en 87 en faisant une grande expo au Robialopolis. Et là, Antoine Gallimard vient à Angoulême. Il voit cette exposition où on édite et Vermeulen où il présente tous nos auteurs. Et puis on en remet une couche sur Céline. D'où l'idée, et ça tombait bien pour arranger les fins de mois et les échéances, de faire une coédition qui s'appelait Futuropolis Gallimard. Et c'est de là qu'est née cette grande collection.
Avec le Clésio adapté par Baudouin, entre autres. Et c'est le début de la fin de cette folle aventure. Florence Sestac, pour terminer.
Et la guerre des boutons, par Florence Sestac.
Ben oui, voilà. La guerre des boutons. Alors comment vous êtes sorti de cette affaire?
Moi, j'étais sorti avant.
Quand vous le racontez avant. Dans la véritable histoire de Futuropolis.
Oui, j'étais sorti avant.
Pour vous, c'était clair que c'était fini, que ça allait être racheté par Gallimard.
Oui, c'était fini. Oui. Pour moi, c'était clair. Et comme si on s'est séparés de
oui,
deux à l'époque.
Il y a le démon de midi qui raconte très bien l'histoire. Voilà. Hein.
Donc,
on s'est séparés. Et
moi, j'ai pris mon chemin et Étienne a continué.
Et là, vous vous retrouvez autour de cette exposition. Attention, encore une exposition, ça peut-être changer le cours des choses. Avec quel esprit vous allez vous rendre demain à cette exposition, vous allez revivre cette aventure, cette époque.
Ah bah avec une grande émotion, c'est sûr. Mais surtout, on a convié toute la bande. Hein, et comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est aussi bien les maquettistes que les emballeurs, que les livreurs, que les commerciaux, que les représentants qui allaient voir les libraires et inaugurer le réseau même de librairies spécialisées de bande dessinée qui n'existait pas. Donc ça va être des grandes retrouvailles.
Vous allez avec les mouchoirs, Florence
Sestac ? Nostalgie, quand tu nous tiens, voilà, nostalgique, très nostalgique. Mais non, ça va être bien, ça va être beau, voilà.
Et ça va durer jusqu'au 19 mai, Futuropolis 1972-1999, aux avant-gardes de la bande dessinée. Eh ben, merci beaucoup. Le Réveil Culturel, c'est en direct ou en différé, à la radio le matin ou quand vous voulez en vous abonnant au podcast de l'émission, disponible sur les applis de Radio France ou sur iTunes. Le Réveil Culturel préparé avec les bons soins de Corinne Amard, réalisé avec toute la vigilance de Vincent Abouchard. Et la prise de son ce matin est une prise de risque assumée héroïquement par Pierrick Charles. Je laisse filer prendre le train pour Angoulême, Florence Sestac et Étienne Robial. Demain, on parlera de Miyazaki avec Sébastien Bénédicte. Demain, sort pour la première fois au cinéma en France Le Château de Cagliostro, le premier film du maître des studios de Ghibli. On se retrouve jeudi, vendredi à Angoulême. Jeudi pour parler de la musique en bande dessinée et vendredi, on se demandera si Batman est toujours un super-héros en compagnie, entre autres, de Frank Miller. Bonne matinée, bon voyage à vous.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et le cinéma Majestic Bastille à Paris présentent les séances France Culture. Rendez-vous ce soir à 20h avec Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi. Une comédie dramatique avec Pierre Arditi, Noémie Lovski et Yolande Moreau.
Il arrive quand ton papa ?
Il viendra pas, il a une nouvelle fiancée.
Anna arrive avec sa fille sur la Côte d'Azur pour les vacances. Au milieu de sa famille, des amis et des employés, elle doit gérer sa rupture et l'écriture de son prochain film.
Vous savez, chacun fait sa vie dans cette maison. Personne ne voit personne.
Projection en avant-première, suivie d'un débat avec la réalisatrice animée par Antoine Guillot, en partenariat avec Combini. Plus d'infos et réservations sur le site lesecransdeparis.fr.
Chaque jour à 16h sur France Culture, la méthode scientifique par Nicolas Martin.
Pourquoi la ceinture de Kuiper aux confins de notre système solaire peut-elle nous en raconter les origines ? La loi de Moore qui prévoit l'augmentation exponentielle des capacités de nos ordinateurs est-elle en train de s'enrayer ? Une foule se comporte-t-elle comme un fluide ? Et l'homme de Flores est-il apparu deux fois dans l'arbre de l'évolution ? Toutes ces questions n'appellent pas une, mais plusieurs réponses. Nous les examinerons toutes méthodiquement cette semaine dans la méthode scientifique.
La méthode scientifique, de lundi à vendredi à 16h et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Chauffe, Marcel chauffe. 40 ans après Jacques Brel, Marcel Azzola est décédé. Le très grand monsieur de l'accordéon, qui a donné en France un souffle nouveau à son instrument en l'emmenant vers le jazz, avait 91 ans. Il raconte ses débuts dans un instant. Nous entendrons aussi le président du département de Seine-Saint-Denis après les ajustements annoncés pour la plateforme de choix post-bac Parcoursup. Les élèves des banlieues parisiennes devraient être moins défavorisés. Dans cette édition encore, le traité franco-allemand signé aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Difficile alliance dans une Europe déchirée, vous le comprendrez. Et puis l'opposition en République démocratique du Congo, elle peine à mobiliser un mois après la présidentielle. Nous irons à Kinshasa. Et d'abord donc la mort d'un virtuose de l'accordéon, Marcel Azzola, 91 ans, est décédé. Il a évidemment donné son nom à cette célèbre réplique de Jacques Brel dans sa chanson Vesoul, Chauffe Marcel chauffe, un Jacques Brel survolté par l'accordéoniste. Son cœur a lâché, annonçait hier soir sa compagne, génie de l'accordéon. Marcel Azzola était connu grâce aussi aux musiques de films de Jacques Tati, connu grâce surtout à sa maîtrise de l'instrument et plus largement sa maîtrise de la musique. Il l'expliquait sur la chaîne Musicalitis.
J'étais dans un ensemble, on disait pas non-voyant, on disait aveugle à l'époque, un ensemble d'aveugles. J'ai donc appris la musique braille, c'est-à-dire les cartons perforés avec les trous. Donc on faisait une ligne de carton et on le singeait tout de suite sur son accordéon. Les notes, c'était des partitions simples, bien sûr, avec des airs, déjà des airs sans doute populaires, soit chose d'Offenbach, mais pas les choses les plus difficiles. J'ai dû faire des progrès assez rapidement puisque à 11 ans, j'étais déjà devenu professionnel. Aujourd'hui, ça ferait peut-être enfant martyr, mais à l'époque, comme j'avais commencé par le violon et le solfège, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que le solfège a été capital pour mes débuts dans la profession, dans le métier de musicien. Je vous dis, cette chance d'avoir appris la lecture de solfège, c'est passionnant parce que quand on a un bon prof de solfège, c'est pas rebutant. Alors que j'entends la plupart des enfants maintenant qui vont soit dans les écoles de musique, « Oh, le solfège, oh, ça m'ennuie, j'aime pas », alors que c'est capital.
Des valses de Marcel Azzola, habitué des bals musettes. Marcel Azzola décédé donc hier à l'âge de 91 ans. La procédure sera plus rapide. Parcoursup version 2 débute aujourd'hui avec la phase d'inscription. Les futurs bacheliers et les étudiants en réorientation vont pouvoir formuler, comme l'année dernière, 10 vœux maximum jusqu'au 14 mars. Au mois de mai, lors des premières réponses, ils auront 3 jours pour répondre et ils seront normalement tous fixés sur leur sort, sur leur admission dès le mois de juillet et non plus début septembre. Autre nouveauté, en Ile-de-France, les licences sont désectorisées. désectorisé, il n'y a plus de secteur donc en Île-de-France pour tous les bacheliers des trois académies Créteil, Paris, Versailles, plus de priorité en apparence. Voilà ce que veut souligner Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis. Il avait dénoncé l'année dernière l'opacité de la plateforme et il rappelle aujourd'hui que les universités ont toujours le dernier mot.
Si dans les critères de sélection locaux utilisés par ces établissements, il y a le métier d'origine et que c'est un discriminant en fonction des préjugés, en fonction de l'évaluation de telle ou telle situation, en quoi ça favorisera le choix des élèves? Moi, je demande une chose simple, c'est que les élèves de Seine-Saint-Denis, à parcours et niveau scolaire, à dossier scolaire équivalent, ils aient les mêmes chances d'aller dans l'établissement de leur choix. Si on veut rétablir de la confiance, si on veut lutter contre ce sentiment d'injustice qu'a développé Parcoursup chez les lycéens de quartiers populaires, il faut établir de la transparence. C'est exactement ce que dit Jacques Toubon.
Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui a recommandé hier par ailleurs une plus grande transparence et la garantie d'une mixité sociale dans l'enseignement supérieur. Il n'a rien dit ou presque. Alexandre Benalla s'est défendu hier devant la commission d'enquête du Sénat. Il s'est défendu d'avoir menti au sujet de ses passeports diplomatiques. Ils lui ont été restitués, dit-il, début octobre, soit bien après son licenciement fin juillet. Des déchets industriels dangereux enfouis au nord de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, sur le site de Socamine, l'État ne va finalement pas déterrer tous ces déchets. Ils avaient été condamnés sous terre depuis un grave accident en 2002. Il y a trop de risques et trop de surcoûts, dit le ministère de l'Écologie dans un communiqué. Une décision critiquée par les associations de protection de l'environnement. Emmanuel Macron et Angela Merkel ensemble ce mercredi à Aix-la-Chapelle à la frontière germano-belge. Ils vont y signer un nouveau traité franco-allemand 56 ans après celui de l'Élysée. Et l'idée, Bertrand Galichet, est de mieux coordonner les politiques de défense et de diplomatie.
À 4 mois des élections européennes, ce traité d'Aix-la-Chapelle tombe à pic pour rappeler les valeurs fondamentales de l'Europe et tenter de faire contrepoids à ceux qui les critiquent. Sauf qu'entre les lignes apparaît le déséquilibre de la relation franco-allemande. Des demandes fortes exprimées par Emmanuel Macron dès son discours de la Sorbonne en septembre 2017 et des réponses de Berlin très en deçà des ambitions françaises. Les déclarations d'intention foisonnent, par exemple pour construire le socle franco-allemand d'une défense européenne, mais sans grande conséquence en raison de la réticence du Bundestag. À l'international, la priorité donnée par la diplomatie franco-allemande à la mission de l'Allemagne comme membre permanent du Conseil de sécurité ressemble à un vœu pieux. De même, les velléités de rapprochement économique se heurtent à la situation très différente de chacun des deux pays, qu'il s'agisse d'emploi, de commerce extérieur ou de dette publique, ce qui affaiblit au plan européen la portée politique de ce traité, fortement voulu par la France et auquel l'Allemagne semble seulement consentir.
Bertrand Galichet depuis Aix-la-Chapelle. Eux veulent en majorité sortir de l'Union européenne, mais ils ne savent toujours pas comment faire. Les députés britanniques ont eu peu de réponses hier de la part de Theresa May. La première ministre ne leur a pas vraiment présenté de plan B face au Parlement. Les précisions d'Antoine Gignoux.
En décembre, la première ministre demandait à Bruxelles des engagements légalement contraignants. Elle parle désormais de concessions, mais sur le fond, rien n'a changé. Theresa May continue d'espérer un assouplissement du dispositif nord-irlandais, le backstop, censé éviter le rétablissement d'une frontière dure et qui continue de bloquer le processus du Brexit. Mais faute d'avoir un véritable plan B, la première ministre risque de perdre définitivement la main. Les députés pro-européens sont en train de rédiger un projet de loi pour obliger le gouvernement à repousser la date de sortie de l'Union européenne si aucun accord n'a été conclu avant la fin du mois de février. Projet soutenu par une majorité de ministres, plusieurs dizaines de membres du gouvernement pourraient mettre leur démission dans la balance. La colère monte aussi à la Chambre des Lords. Hier soir, plusieurs conservateurs ont voté avec les travaillistes contre le gouvernement pour réclamer des précisions sur les futurs traités commerciaux entre le Royaume-Uni et le reste du monde.
Partons maintenant en République démocratique du Congo où la prestation de serment du futur président est repoussée. Félix Tshisekedi doit patienter dans un climat d'indécision. Il a été reconnu vainqueur par la Cour constitutionnelle, puis finalement par l'Union africaine. Son élection pourtant continue d'être contestée dans le pays par l'autre opposant, Martin Fayoulou. C'est un reportage d'Anthony Fouchard.
Dans son grand bureau, en plein cœur de Kinshasa, Martin Fayoulou paraît bien seul.
La communauté internationale l'abandonne et même l'Union africaine, d'abord à ses côtés, a finalement fait machine arrière. Mais celui qui estime être le vrai gagnant de l'élection refuse de s'avouer vaincu.
Je ne me laisserai pas faire, je ne céderai pas. J'ai demandé au peuple congolais de ne pas reconnaître la décision de la Cour constitutionnelle. J'ai demandé à la communauté internationale de ne pas considérer ces résultats comme des résultats normaux.
Même la France, qui s'est montrée si dure au lendemain de la proclamation des résultats, a pris acte de l'élection de son rival. Alors Martin Fayoulou mise sur ses partisans qui l'attendent en ville, où il doit prononcer un discours.
Ces élections étaient obtenues au prix du sang du peuple congolais. Et cette fois-ci, c'est une occasion pour sortir de cette misère que nous avons. Nous sommes là pour réclamer notre victoire, la vérité des urnes.
Mais dès le petit matin, la police a bloqué tous les accès. Les forces de l'ordre n'ont eu ensuite qu'à attendre que la tension monte. Et cela n'a pas manqué. En fin d'après-midi, des heurts ont éclaté entre partisans de Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais.
Anthony Fouchard à Kinshasa pour France Culture. La neige va balayer un grand quart nord-ouest de la France. Aujourd'hui, il est d'ailleurs conseillé de limiter ses déplacements. 24 départements ont été placés en vigilance orange. Cela va des Hauts-de-France au Grand Est en passant par l'Île-de-France et le centre de la France. Un épisode neigeux qui va durer jusqu'à demain, inclus partout ailleurs. C'est toujours une alternance de nuages et d'éclaircies. Comptez moins 2 à 4 degrés ce matin en moyenne. 6h40, bonjour Jacques Mignet.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Et dans votre journal des idées, vous revenez sur le traité d'Aix-la-Chapelle dont il était question dans le journal à l'instant, puisque doit être signé aujourd'hui par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Ce traité franco-allemand, il est destiné à renforcer la coopération entre les deux pays.
Et oui, et comme il arrive souvent, Clara, dans l'histoire des idées, on peut féliciter les détracteurs d'un texte ou d'une pensée pour l'avoir transmis à la postérité, ne serait-ce que sous la forme de citations, même tronquées. En l'occurrence, c'est la bordée d'inexactitudes et d'interprétations fallacieuses, voire saugrenues, qui a introduit dans le débat public les principales dispositions du traité de coopération franco-allemande. Car on ne peut pas dire que la publicité lui soit venue des canaux officiels et encore moins des médias qui ne s'intéressent en général à la construction européenne que sous l'angle de ses failles ou de ses impasses. Si l'on veut avoir quelques détails sur ce texte censé réactiver l'historique traité de l'Elysée signé par De Gaulle et Adenauer, le 22 janvier 1963, il faut se reporter aux rubriques de vérification des quotidiens Le Monde, Les Décodeurs ou Libération, Check News. Et non, le traité ne prévoit ni de céder le siège de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, ni l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne, comme a fait mine de s'en émouvoir Marine Le Pen, toujours à l'affût d'une discorde avantageuse concernant l'Europe. Pour résumer l'esprit du nouveau traité, on peut citer la résolution adoptée conjointement par l'Assemblée nationale et le Bundestag, qui lui assigne de développer les convergences dans des domaines comme l'approfondissement de la coopération transfrontalière, l'espace économique franco-allemand et le marché intérieur européen, les droits sociaux en France et en Allemagne. Concernant le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, le traité prévoit d'étendre la coopération avec la diplomatie allemande dans le cadre d'une politique étrangère commune afin de promouvoir aux Nations Unies les positions et les engagements de l'Union européenne face aux défis et menaces de portée mondiale. Et dans la perspective d'une réforme du Conseil de sécurité, il affirme comme une priorité de la diplomatie franco-allemande l'admission de la République fédérale au titre de membre permanent, l'objectif étant de représenter les positions et les intérêts de l'Union européenne. Donc, d'accroître à la fois sa surface internationale et son intégration politique. Dans un contexte difficile pour le projet européen, c'est ce que soulignent Jean-Dominique Giuliani et Frank Bassner dans Le Figaro, dont les pages Champs Libres s'ouvrent au débat. Le président de la Fondation Robert Schuman et le directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwig se félicite du message ainsi adressé à l'Europe, notamment en matière de défense. Je cite, la France et l'Allemagne s'assurent d'un soutien total en cas d'agression par des forces étrangères. La coopération accrue, non seulement pour les équipements et matériels, mais sur les opérations extérieures, et pour l'Europe, une garantie de sécurité et d'autonomie. Sur le plan économique, le nouveau traité évoque une convergence en matière de fiscalité et de transposition concertée des directives européennes en droit national. Et surtout, toutes les possibilités offertes par ce traité sont ouvertes à d'autres partenaires européens. Mais le juriste Olivier Gohin estime dans le Figaro que plusieurs clauses du traité ne sont pas conformes à notre constitution, notamment en matière de défense où la stratégie de dissuasion nucléaire ne peut être que nationale. Passons sur la coopération transfrontalière avec l'Alsace et la Lorraine, objet de l'agitation lepéniste des vieux symboles, mais qui a le mérite de laisser entrevoir une Europe des régions alternative au repli nationaliste. Le constitutionnaliste dénonce le préambule du traité qui affirme la volonté d'une Union européenne souveraine, alors que cette organisation internationale, dit-il, n'est pas un État. Or, c'est précisément l'objet du plaidoyer de Jean-François Bihiter, publié chez Alias, sous le titre « Demain l'Europe ». Le brillant sinologue estime en citoyen européen que nous devons repenser cette notion de souveraineté qui nous vient de l'âge des nationalismes, où la souveraineté de la nation a été placée au-dessus de celle du citoyen, alors qu'il nous faut placer la souveraineté du citoyen au-dessus de celle de la nation. L'Europe est en crise, écrit-il, parce que les Européens ont besoin d'un État européen fort et démocratique, mais tiennent à leurs États nationaux parce que l'Union européenne n'est ni forte ni démocratique. Si nous ne parvenons pas à trancher cette question de la souveraineté, nous n'aurons ni l'un ni l'autre, ni État fort, ni Europe puissante et démocratique, car dans la logique actuelle de concurrence entre les nations européennes, c'est le moins-disant fiscal et social qui s'impose avec les lois du marché. Les démagogues qui manipulent l'opinion à des fins électorales font le jeu des grandes puissances qui veulent affaiblir l'Europe pour des raisons économiques comme les États-Unis aujourd'hui ou politiques comme la Chine ou la Russie opposées au modèle démocratique des libertés publiques. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. C'est l'heure de retrouver les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, votre invité. Bonjour madame.
Bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, alors nous sommes raccord puisque vous allez revenir sur le Brexit.
Oui, c'est ça, vous parliez de l'Europe et l'Irlande, elle est sous pression alors qu'hier, Theresa May n'a pas proposé de plan B à l'accord sur le Brexit. L'éventualité d'un no deal, une sortie sans accord, donc pèse toujours. Avec elle, le rétablissement de la frontière entre Belfast et Dublin, un risque de tension communautaire peut-être. D'ailleurs, fait inédit, des véhicules piégés ont réapparu ce week-end à Londonderry, inédit depuis 1998, depuis les accords de paix dits du Vendredi Saint. Et on en parle avec vous, Agnès Maillot. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes maître de conférence en études interculturelles à la Dublin City University, auteur de Sinn Féin en 2004 et de Les Irlandais en 2014. Alors, les Irlandais, l'iceberg irlandais ou plutôt de la frontière, est-il évitable? Peut-être pas pour la Première ministre. Elle disait personne ne souhaite le retour des frontières du passé à Belfast en 2016. On voit que ça a été la pierre d'achoppement des négociations l'année dernière. Le sujet est venu s'imposer ce week-end. Est-ce que c'est la principale difficulté aujourd'hui pour Theresa May, cette question de la frontière?
C'est l'une des principales difficultés pour un certain nombre de raisons. Tout d'abord parce que je pense que personne ne veut de cette frontière dans le court terme en tout cas. Qu'elle dépend du soutien du parti unioniste démocratique, le DUP, qui lui est farouchement opposé à toute solution donnerait à l'Irlande du Nord un statut différent du reste du Royaume-Uni. Donc il faut qu'elle puisse concilier la position irlandaise qui est très tranchée et qui maintient qu'il ne peut pas y avoir de frontière entre le Nord et le Sud, et celle des pro-Brexiteurs qui disent que l'Irlande ne peut pas imposer ses conditions et que le Royaume-Uni est en droit de décider de quitter l'Union européenne, quelles que soient les conditions. Donc on est dans une situation très où les positions sont de plus en plus tranchées et ça va être très difficile de trouver cette issue.
Oui, en effet, de radicalisation des positions politiques. Juste un point justement sur cette question de la frontière. Eu égard à ces accords du Vendredi Saint, on dit que c'est des accords qui garantissent la paix, mais est-ce qu'ils garantissent pas d'abord justement le passage de cette libre frontière
C'est-à-dire qu'ils ont, ce qu'ils ont permis, en tout cas ces accords, c'est de démilitariser cette frontière qui a été la frontière la plus dure et la plus surveillée de toute l'Union européenne pendant des années. Et ce qu'ont permis les accords de 98, c'est de rétablir une relation privilégiée entre le nord et le sud de l'île, et surtout de permettre une totale libre circulation des personnes. C'est une frontière qui est très poreuse. Elle fait à peu près 500 kilomètres, donc on n'imagine pas quand on voit le territoire irlandais qu'elle peut être aussi longue. Il y a 208 points d'entrée officiels, donc c'est deux fois plus pratiquement que la frontière entre l'UE et le reste de l'Europe de l'Est. Deux fois plus de points, de postes de frontières, qui pendant des années, pour la plupart, ont été très militarisés. Il y avait des miradors, il y avait l'armée britannique, donc en plus ça coûte énormément d'argent. Et qui a été aussi symboliquement le point de rupture entre ces deux côtés de l'île. Donc ces accords ont permis de normaliser cette situation. Maintenant, quand on passe d'un côté à l'autre de l'île, on ne s'en rend même pas compte. Ce que supposerait un Brexit sans accord, c'est forcément de trouver une solution pour que les vérifications douanières, etc., se fassent entre l'UE et le Royaume-Uni, c'est-à-dire entre les deux parties de l'Irlande.
Il avait été beaucoup question de ce fameux backstop que refuse justement une partie de la classe politique britannique. Il en a été question ce week-end encore. C'était notamment des propos à la BBC de la part du ministre polonais des Affaires étrangères, Jacek Chaputowicz, qui disait « On a discuté d'une limitation du backstop à 5 ans avec les autorités britanniques et d'Irlande du Sud. J'ai l'impression que cela pourrait débloquer les négociations. » Qu'est-ce que ça veut dire
Ça voudrait dire, en fait, ce filet de sécurité garantirait à l'Irlande qu'il n'y aura pas de frontière. Donc c'est là le point d'achoppement, puisque ça signifie qu'en gros que la frontière serait dans la mer, en fait. Elle serait entre les deux îles. Et ça, pour les unionistes, c'est inacceptable, puisque ça veut dire que tout d'un coup, ils sont plus proches de la République d'Irlande que du Royaume-Uni, ce qui leur semble parfaitement inacceptable.
Et donc, si ça revient ce week-end, c'est que c'est pas encore réglé, alors.
Ah, c'est pas réglé, c'est pas réglé. Et il y a même certains conservateurs qui sont pas tout à fait enthousiastes face à cette éventualité. La proposition des Polonais, elle ne tient pas la route selon les Irlandais, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est un backstop, ce filet de sécurité indéfini. Et l'Union européenne soutient la position irlandaise. Donc on est vraiment dans un rapport de force qui risque d'être très compliqué au cours des 10 semaines à venir.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères d'Irlande du Sud a nié que c'était une idée actuelle. Il parlait d'une idée évoquée en décembre à Dublin. Lui, il veut pas de limite à ce mécanisme d'assurance. Par contre, deuxième chose concernant ce backstop, c'était un article du Daily Telegraph qui parlait d'une éventuelle proposition de Theresa May qui n'a pas eu lieu hier, mais quand même d'essayer de court-circuiter en quelque sorte la question du backstop, là en amendant carrément les accords du Vendredi Saint. Qu'est-ce que ça impliquerait?
En fait, ce qu'elle a proposé effectivement, c'est de court-circuiter l'UE, en gros, et ce qu'elle aurait proposé, parce que ça n'a pas été confirmé, et l'Irlande a immédiatement dit que de toute manière c'était pas une solution qu'ils envisageaient, mais c'était de renégocier les rapports entre les deux parties de l'île à travers les accords du Vendredi Saint, et non pas dans le cadre de l'UE. Ça n'a pas l'air d'être une proposition qui a été retenue ni par les Irlandais, et les Britanniques n'ont pas l'air d'en parler non plus. Ça serait extrêmement compliqué, puisque ça serait là un accord bilatéral qui concerne malgré tout quand même un pays de l'UE et un pays qui ne sera plus dans l'UE dans quelques semaines. Donc ça n'a pas l'air de retenir l'attention des principaux responsables.
Donc ça, c'était pour les propositions politiques. On voyait aussi à la fin de l'année dernière dans la presse française, en tout cas, une multiplication des reportages sur les inquiétudes à la frontière. Et puis, je disais, cette crainte d'un retour des tensions communautaires. Là, on a vu ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'il y a eu une explosion avérée d'une camionnette piégée devant un tribunal à Londonderry. Donc, les autorités ont accusé la New IRA. Qu'est-ce que c'est que cette New IRA et qu'est-ce que ça veut dire, cette explosion en pleine négociation aujourd'hui?
Alors, le New IRA, elle existe depuis quelques années, depuis 2012. Alors, il y a une nébuleuse d'organisations paramilitaires républicaines qui sont communément appelées les dissidents, c'est-à-dire c'est ceux qui n'acceptent pas les accords de paix et qui pensent que l'IRA a trahi ses objectifs puisqu'elle n'a pas obtenu la réunification. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la réunification de l'Irlande. Et ils sont prêts à y arriver, enfin, à essayer de l'obtenir par tous les moyens, y compris la violence. Ce qu'on voit là, actuellement, ce sont des manifestations de... C'est pas la première fois qu'ils se manifestent, puisqu'ils ont déjà... Cette organisation a tué deux officiers de prison au cours des cinq dernières années. Mais la coïncidence n'est pas totalement fortuite, puisque il s'agit là, en fait, de mettre pression à la fois sur les Irlandais et sur les Britanniques, en leur disant cette... éventualité d'une frontière pourrait nous ramener vers une situation extrêmement volatile où la frontière pourrait devenir la cible d'attaque qui serait en plus des cibles considérées par certains, en tout cas comme légitimes. Donc ça pourrait éventuellement renflouer les rangs de ces organisations qui pour l'instant restent quand même relativement minoritaires.
Ouais, avec une certaine fébrilité quand même des autorités ce week-end.
Absolument.
Puisqu'on a parlé de trois autres camionnettes piégées, finalement on apprend ce matin canular, mais quand même je crois cinq arrestations dont une personne de 50 ans toujours arrêtée. Est-ce qu'il y a un risque de résurgence, disons, de la violence armée, on va dire 20-30 ans après les troubles aujourd'hui, réellement?
Ce risque n'a jamais été totalement absent. Ces groupuscules existent et se manifestent ponctuellement. Ils n'ont pas beaucoup de soutien, mais ils existent et ils ont quand même, on calcule que entre eux, si on amalgame tous ces groupes, ils auraient un soutien d'environ, ils auraient à peu près 500 personnes qui seraient plus ou moins affiliées à ces groupes. C'est pas rien non plus. Donc ils sont là et effectivement, le Brexit sans accord pourrait être une étincelle qui raviverait non seulement les tensions, mais qui inciterait certains qui se sont détournés de la violence à y retourner en se disant on peut vraiment pas négocier autrement avec les Britanniques. Donc il y a un danger.
Bon, et toute dernière chose, alors ça fera sans doute une autre émission, mais il est question aussi, ça et là, et peut-être de plus en plus, d'un éventuel référendum qui serait posé sur la réunification de l'Irlande en cas de no deal ou non, peut-être même avant. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se fasse? Est-ce que ce serait pas la solution finalement?
Alors, si on en croit les sondages d'opinion, il n'y a pas de majorité claire qui se dessine ni d'un côté ni de l'autre de la frontière pour cette solution, pour la réunification. D'une part parce que les gens ne sont pas prêts, parce que ça coûte très cher. Même le gouvernement irlandais devrait en assumer les frais et ça coûterait très cher. Et même en Irlande du Nord, pour l'instant, on n'en est pas là. Après, il faut voir ce que donne effectivement cette sortie de l'UE sans accord. Avec quand même ce paramètre qui est très important, c'est que les unionistes restent très farouchement opposés à une réunification. Donc là, on pourrait créer une situation volatile dans l'autre camp, ce qui serait aussi très problématique.
Eh bien, on suivra tout ça et on aura l'occasion d'en reparler quand vous serez rentré à Dublin, je l'espère. Merci en tout cas d'être venu ce matin, Agnès
Maillot. Merci à vous.
Merci, maître de conférence en études interculturelles à la Dublin City University.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Un ami, c'est quelqu'un de fidèle.
Voir le monde, au plus près, chaque jour à 17h, LSD, la série documentaire. Perrine Carvran.
Amitié d'enfance, amis imaginaires, duos éternels, amis disparus ou bande de copains. Cette semaine, LSD cherche à se faire des amis et explore ce lien indispensable et mystérieux qui se situe quelque part entre l'amour et la fraternité.
Un ami, ça sert à faire confiance.
Un ami, ça sert à t'épauler dès que t'es tout seul et dès que t'es triste.
Histoire d'amitié, LSD, la série documentaire, de lundi à jeudi à 17h et sur franceculture.fr. France Culture présente Le Nid de Cendres, écrit et mis en scène par Simon Falguière. Une épopée théâtrale pour 16 jeunes comédiens qui signe là un acte théâtral rêvé. Un diptyque entre thriller, farce, drame et onirisme où se rencontrent l'Occident en flammes et l'univers du conte. Le Nid de Cendres, du 23 au 27 janvier, au Théâtre du Nord L'Idéal à Tourcoing. Un partenariat France Culture.
Il est 6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Erner. Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à tous.
Alors, il paraît qu'il y a un journaliste gilet jaune.
Un journaliste gilet jaune, l'idée étant, je présume, d'en finir avec l'entre-soi des journalistes, lesquels penseraient tous la même chose et viendraient tous des mêmes couches de la société. Et cependant, il y a une règle essentielle en sciences humaines, et le journalisme se situe à la lisière des sciences humaines, c'est la maxime du sociologue Max Weber. je le cite, « il n'est pas utile d'être Jules César pour comprendre Jules César ». Cette maxime est à la fois un choix méthodologique et un choix éthique. Alors un choix éthique, parce qu'il faut refuser une humanité éclatée façon puzzle, il faudrait être gilet jaune pour parler aux gilets jaunes, sous-entendu chaque communauté parlerait à sa communauté, parce qu'alors, eh bien ce serait la fin de l'universel. Choix méthodologique parce que précisément, il n'y a pas d'essence sociale. Les êtres humains ne sont pas servilement soumis à leur classe, à leur profession, à leur milieu. L'idée selon laquelle nous serions réductibles à notre place dans la société est une erreur répertoriée. Elle a pour nom le sociologisme, et si le sociologisme disait vrai, alors les êtres humains seraient de purs automates sociaux, ils n'auraient ni libre arbitre, ni émotion, ni subjectivité. Si on peut faire de la sociologie, écrire des romans, mais aussi parler à un inconnu dans un train, c'est parce que les êtres humains se comprennent, ils peuvent être en désaccord bien entendu, mais ils peuvent toujours échanger. À l'évidence, chaque milieu social peut avoir une certaine propension à héberger certaines valeurs, à défendre certaines idéologies, mais cette propension ne rend pas pour autant les hommes uniformes. Chez les êtres humains, les convictions ne sont jamais réductibles aux intérêts. On peut vouloir penser contre soi-même, aimer penser contre soi-même. Il n'est pas utile d'être ouvrier comme Proudhon pour défendre les ouvriers. La plupart de ceux qui ont pensé contre la bourgeoisie étaient des bourgeois, de Karl Marx à Emmanuel Berle. Nombre d'entre eux ont milité en faveur de la mort de la pensée bourgeoise, pour reprendre le titre de l'un des ouvrages d'Emmanuel Berle. Ce que nous enseignent les sciences humaines, c'est que les personnes ne sont pas des pierres. Les pierres sont soumises à la gravité, elles n'ont pas le choix. En ce qui concerne les personnes, les choses sont un peu différentes. Les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets. C'est pour cela qu'un Gaulois réfractaire, ou pas d'ailleurs, peut tenter de comprendre ce qui a conduit Jules César à penser comme Jules César.